Bruxelles. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Monde aujourd'hui, édition du 24 septembre 2014, en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Nathalie Barge en compagnie de Chérubin Dorcille. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Nathalie.
Au sommaire ce soir, à l'Assemblée générale de l'ONU, Barack Obama a défendu sa stratégie contre les djihadistes et a appelé à un effort international contre Ebola.
L'épidémie devient de plus en plus menaçante. Les experts redoutent jusqu'à plus de 1 million d'infections en Afrique de l'Ouest dans les 4 prochains mois.
En Centrafrique, au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées.
Le colonel Mahamat Anour de l'ex-Séléka depuis Mbré a confirmé l'attaque, ajoutant que leurs éléments sont à la recherche des otages.
Nous parlerons aussi des efforts et des espoirs du Mali dans la lutte contre la pauvreté.
Et nous aurons bien entendu à la fin de l'émission les sports avec Timothée Donangmaï et la musique avec Roger Muntou. Mais d'abord le journal.
Dans le nord du Mali, des hommes armés ont décapité un Touareg enlevé la semaine dernière près de Tombouctou. 4 autres personnes enlevées en même temps que lui ont été remises en liberté. La famille de la victime, que cite l'agence France-Presse, accuse Al-Qaïda au Maghreb islamique de l'avoir exécuté parce qu'il l'accusait d'être un informateur des troupes françaises et de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. L'homme a été tué probablement dans la région de Tombouctou et pour marquer les esprits, sa tête a été abandonnée dans la localité de Zouéra, a expliqué une source sécuritaire de la MINUSMA, que cite également l'AFP. Les 4 autres personnes enlevées, toutes de la même famille que la victime, ont été relâchées dans la zone de Zouéra. La région continue de connaître de sérieux problèmes de sécurité, explique notre confrère Askia Touré.
Fini la zone de Gounam, il n'y a plus d'autres sécurités. L'armée n'est pas présente dans cette localité, ni l'armée, ni les forces parallèles. Les gens se déplacent sur les grandes artères. C'était pratiquement Gounam aller à Diré, quitter Diré aller à Gounam, aller à Tombouctou. C'est le tronçon que les gens prennent, mais toujours avec des risques, parce que même là, sur le tronçon, il n'y a aucune forme de garantie, parce qu'il n'y a aucune sécurité sur le tronçon. Quitter Diré jusqu'à à Tombouctou, sur la route, en dehors de l'entrée de Tombouctou, il n'y a aucun checkpoint.
À Tombouctou, c'était le journaliste Askia Touré.
Et un groupe algérien lié à l'État islamique affirme avoir décapité un randonneur français enlevé en début de semaine. Les soldats du califat avaient menacé de tuer Hervé Gourdel, âgé de 55 ans, à cause de la participation de la France à la campagne militaire contre l'État islamique en Irak. Une vidéo publiée par le groupe ne montre pas la décapitation, mais un militant tenant une tête devant la caméra. Deux Américains et un Britannique ont été tués de la même façon par les djihadistes de l'État islamique.
En République centrafricaine, au moins 10 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées au centre du pays. C'était lors d'une attaque menée hier par des hommes armés assimilés aux Antibalaka à Mbata, un village situé non loin de la ville de Mbré. Par ailleurs, la MINUSCA a tenu sa première conférence de presse hebdomadaire ce mercredi à Bangui. Félix Yepassi Zembo.
Selon des sources locales, le village de Mbata, situé à une quarantaine de kilomètres d'Embré, dans le centre du pays, a été attaqué mardi. Les assaillants assimilés aux Antibalaka ont tué au moins 10 personnes, prenant en otage une dizaine d'autres avant d'incendier plusieurs maisons. Le colonel Mahamat Anour de l'ex-Séléka depuis Mbré a confirmé l'attaque, ajoutant que leurs éléments sont à la recherche des otages. Un autre témoin a expliqué que les blessés ont été transférés de Mbata à Kagabandoro par l'ONG humanitaire Save the Children. Ces nouvelles violences interviennent alors qu'à Bangui, la MINUSCA déploie progressivement sa police. Aujourd'hui, au cours de sa première conférence de presse hebdomadaire, la nouvelle force onusienne a dit vouloir mettre en place une police de proximité. Pour Luis Carillo, commissaire de cette police, aucun individu n'est au-dessus de la loi.
La police doit faire ce qu'on attend de la police, c'est travailler ensemble avec les autorités judiciaires, ensemble avec les autorités administratives. S'il y a quelqu'un qui est trouvé à commis de faits qui sont des crimes, il faut l'arrêter et l'amener au système de justice. Toujours, je le dis, en coordination avec la police nationale et la gendarmerie nationale.
Notons qu'un millier de policiers de l'ONU se déploient progressivement à Bangui. Ils vont devoir travailler en collaboration avec la police et la gendarmerie centrafricaine.
Selon des chercheurs américains, entre 500 000 et 1 400 000 personnes en Afrique de l'Ouest pourraient être infectées par le virus Ebola d'ici à janvier, à moins que l'épidémie ne soit sous contrôle. Les détails avec Michel Joseph.
Cette estimation des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies est basée sur un schéma qui suppose que les cas vont doubler toutes les quelques semaines au Liberia et en Sierra Leone et que le nombre de cas actuels signalés par l'Organisation mondiale de la santé est largement sous-estimé. Les CDC ont toutefois précisé que leur estimation la plus élevée sera très peu probable une fois la mise en œuvre des nouveaux efforts pour lutter contre le virus Ebola, dont l'augmentation des centres de traitement et l'engagement des États-Unis à envoyer 3000 soldats dans la région touchée. Les experts ont ajouté que l'épidémie peut être contrôlée si 70% des patients sont placés dans des établissements où le risque de transmission est réduit.
Le gouvernement guinéen envoie 2000 jeunes faire du porte-à-porte pour sensibiliser les familles sur le virus Ebola. L'initiative vient après l'assassinat brutal de 8 personnes, des travailleurs de la santé et des journalistes, alors qu'ils voyageaient à Womé, dans le sud-est, près de Nzéré Corée, dans le cadre d'une campagne du gouvernement pour informer sur le virus. À ce propos, une vingtaine de personnes au moins ont été arrêtées, a annoncé ce mercredi le ministre guinéen de la Justice, Cheikh Sako, lors d'un point de presse. Elles font l'objet d'un interrogatoire devant le procureur de la République de Nzéré Corée, a déclaré M. Sako.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
S'exprimant devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York aujourd'hui, le président américain Barack Obama a plaidé pour qu'un effort plus important soit engagé au niveau international pour éradiquer la plus grave épidémie du virus Ebola en Afrique depuis son identification en 1976. Les détails avec Jacques Aristide.
Pour Barack Obama, le monde affronte aujourd'hui des défis croissants et il appartient à tous les gouvernements de les relever ensemble.
Alors que nous nous réunissons ici, les systèmes de santé publique en Afrique de l'Ouest sont en train d'être submergés par l'épidémie d'Ebola qui risque aussi de s'étendre rapidement au-delà des frontières.
L'intervention du président a toutefois été dominée par la lutte contre le terrorisme, Barack Obama appelant le monde à se joindre au combat contre les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie et réaffirmant sa volonté de le détruire. Il a demandé aux musulmans de rejeter avec force l'idéologie prônée par de tels groupes ultra-violents, dont Al-Qaïda. Il faut mettre fin au cancer de l'extrémisme violent, a-t-il ajouté. À la tribune de l'ONU, le président Obama a également dénoncé l'agression de la Russie en Europe tout en tendant la main à Moscou, appelé à choisir le chemin de la diplomatie et de la paix dans la crise en Ukraine. Énumérant d'autres conflits en cours, Barack Obama a déploré une année terrible pour les principes inscrits dans la Charte des Nations Unies.
La coalition menée par les États-Unis a bombardé pour la seconde journée ce mercredi des positions de l'État islamique en Syrie, prenant pour cible les moyens de transport des djihadistes. Lionel Gaïma.
Selon le commandement central américain qui supervise les opérations militaires américaines au Moyen-Orient, un raid aérien endommagé dans l'est de la Syrie, 8 véhicules utilisés pour transporter de l'équipement en Irak. Ce dernier bombardement est le 20e en Syrie depuis mardi, depuis que Washington et 5 alliés arabes ont commencé une campagne aérienne en attaquant des centres d'entraînement et de commandement de l'État islamique. Le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby, a également annoncé des raids sur des positions de l'État islamique en Irak, près de la ville kurde d'Erbil et Bagdad, la capitale. Pour rappel, l'État islamique a conquis des vastes pans de territoire en Irak et en Syrie ces derniers mois. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 120 militants de l'État islamique et d'Al-Qaïda ont été tués dans la première vague des raids hier.
L'Organisation internationale pour les migrations soutient les enquêtes dans 3 pays d'Europe sur la disparition en Méditerranée de près de 500 migrants qui ont quitté le port de Damiette en Égypte début septembre. Des enquêtes distinctes sont en cours en Italie, en Grèce et à Malte sur l'événement qui, selon des témoins, aurait été un sabotage délibéré d'une embarcation transportant des centaines de migrants venant du Soudan, d'Égypte, de Syrie et des territoires palestiniens. Seuls 11 survivants ont été signalés. Selon l'OIM, le total de pertes en vie humaine en Méditerranée depuis le début de l'année s'élève à 3072 contre 700 pour toute l'année 2013.
Ici aux États-Unis, des centaines d'enfants dans une dizaine d'États sont tombés gravement malades ces derniers mois, victimes de la propagation d'un virus. Camille Guadidier nous explique.
L'entérovirus D68 se propage à un rythme sans précédent aux États-Unis depuis la mi-août. Plus d'un millier de cas ont été signalés et plusieurs centaines d'enfants de tous les âges ont dû être hospitalisés pour cause de détresse respiratoire aiguë. Pour donner une idée de l'ampleur du problème, le même hôpital à Kansas City dans le Missouri a dû traiter 500 enfants, tous victimes de l'entérovirus D68. Les autorités sanitaires pensent que toutes les régions du pays seront touchées et l'ont signalé ces dernières 48 heures des cas dans le Massachusetts et en Caroline du Nord, aussi bien qu'en Colombie-Britannique au Canada. Le D68 provient de la même souche que le virus pied-main-bouche qui touche particulièrement les jeunes enfants. Au début, les symptômes s'apparentent à ceux du rhume avec de la fièvre et de la toux, mais ils peuvent dégénérer en problèmes pulmonaires qui rappellent ceux provoqués par l'asthme et qui nécessitent des hospitalisations rapides.
Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, Nathalie Barge et Chérubin Dorcil, à présent, la partie magazine de votre émission.
La Guinée a entrepris une campagne de porte-à-porte pour informer les familles sur l'épidémie d'Ebola. Le gouvernement guinéen a prévu d'engager 2000 jeunes dans cette initiative qui intervient après le meurtre de 8 membres d'une équipe de sensibilisation à l'intérieur du pays. Les autorités ont donc opté pour une nouvelle stratégie, nous dit un correspondant de La Voix de l'Amérique à Conakry, Karim Camara. Son reportage, présenté par Issia Kaba.
Le gouvernement guinéen a promis que ce qui s'est passé la semaine dernière dans le village de Womé ne doit pas se répéter. On se le rappelle, des habitants de la zone ont attaqué un cortège se dirigeant vers le sud-est pour des séances de sensibilisation sur Ebola. Bilan, 8 travailleurs de la santé et journalistes tués. 20 suspects ont été arrêtés et l'enquête se poursuit, a dit le porte-parole du gouvernement, Albert Damatan Camara.
Ce qui s'est passé à Womé donc, est vraiment inédit et surprenant. Qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de renforcer la sécurité autour des équipes de sensibilisation avec un dispositif qui permet de les sécuriser. Heureusement, à Womé, c'était de la sensibilisation, ce n'était pas nos partenaires étrangers qui ont été agressés. Ça aurait été très difficile à gérer. Nous allons désormais faire de telle sorte que la sécurité soit le plus proche possible de tous les endroits où il y a à traiter des questions d'Ebola. Il y a l'enquête qui se poursuit, une vingtaine de personnes sont arrêtées et nous espérons arriver au bout afin de déterminer quels sont les coupables et quels sont éventuellement les commanditaires.
Des organisations locales demandent au gouvernement d'intensifier sa campagne d'information et de sensibilisation sur l'épidémie. À travers la capitale Conakry, des églises et des mosquées participent conjointement à des programmes d'éducation sur demande du gouvernement. Malgré tout, les travailleurs de la santé font encore face à la résistance et à l'hostilité de plus d'un, particulièrement dans la région du sud-est, où la maladie semble avoir fait son apparition en décembre dernier. Le ministère guinéen de la jeunesse est en train de former 2100 jeunes en vue d'une campagne nationale de porte à porte la semaine prochaine. Écoutons le ministre Mustapha Naïté.
Ces jeunes feront de porte à porte, ils auront des kits pour montrer aux familles comment se protéger. Ils auront à prendre des données sur le terrain aussi, dans les familles, combien les ménages qui sont déjà ciblés et les types de réticence ou de résistance que nous rencontrons. Donc d'importantes informations qui vont être remontées pour savoir exactement comment encore davantage mieux lutter contre cette maladie.
L'annonce du ministre de la Jeunesse intervient quelques jours seulement après une initiative similaire en Sierra Leone. Selon les autorités sierra-léonaises, c'était une campagne réussie où plus d'un million de foyers ont été visités. Cependant, contrairement à la Sierra Leone, la Guinée ne prévoit pas de confiner les habitants dans leurs maisons. À date, Ebola a fait plus de 600 morts en Guinée et plus de 2800 dans la sous-région.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum revient ce jeudi sur l'épidémie d'Ebola qui pourrait devenir endémique en Afrique de l'Ouest d'après l'OMS. Quels sont les obstacles à surmonter dans la lutte anti-Ebola? Quel impact sur les pays affectés? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Malgré les différentes crises qu'a connues le Mali ces dernières années, les statistiques révèlent que le taux de pauvreté connaîtra une baisse significative l'année prochaine. Mais les défis restent importants. À la cellule stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, on assure que l'espoir est permis, surtout grâce à la reprise de la coopération avec différents partenaires. Des précisions avec Kassim Traoré à Bamako.
Les conditions de vie des Maliens peuvent connaître une amélioration significative en 2014 et 2015. Et pourtant, les séquelles de la crise de 2012 et ses effets collatéraux sont visibles. Segouba Diarra, coordinateur de la cellule stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté.
L'évaluation, l'estimation de la pauvreté en 2013 montre qu'on a pas eu d'augmentation entre 2012 et 2013, mais une sorte de stagnation. Ceci se comprend parce que les programmes de coopération avec les partenaires, les différents projets étaient assez arrêté et ça a commencé à démarrer effectivement vers le dernier trimestre de l'année 2013. Donc on ne peut pas avoir des résultats significatifs entre le niveau de pauvreté de 2012 et celui de 2013. C'est pour ça que le taux de pauvreté de 2012 était à 42,7%. 2013, c'est 42,6%.
La cellule de réduction de la pauvreté se réjouit d'une nette amélioration de l'accès de la population à certains services sociaux de base comme la santé, l'eau potable et l'électricité. Alors que dans le domaine de l'éducation, tout n'est pas rose.
Dans le domaine de l'éducation, nous avons constaté une dégradation de la situation, une baisse du taux de scolarisation, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. Mais une particularité à ce niveau, c'est que nous avons constaté que le taux de scolarisation des filles a dépassé en 2013 celui des garçons. Ceci se comprend également dans la mesure où un focus avait été fait sur la scolarisation des filles. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'était assez mitigé.
La cellule constate un bond en avant en 2013, surtout avec la reprise de la coopération. Si cette tendance continue, la croissance peut atteindre 6,5%. Segouba Diarra, coordinateur de la cellule stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté.
D'une façon générale, ces éléments ont amorcé une tendance quand même qui nous amène à l'optimisme globalement, surtout dans les perspectives 2014 et 2015. Par exemple, le taux de croissance en 2014 est prévu à 6,5% contre 1,7% pour 2013. Vous voyez, donc ça va être de nature à booster pas mal d'éléments et à améliorer significativement les conditions de vie des populations. Et nous avons constaté que dans le domaine de l'environnement aussi, une prise de conscience est en train d'être prise pour pouvoir intégrer la dimension de l'environnement, changement climatique dans nos politiques et stratégies.
Il ajoutera que le Mali se relève de la crise de 2012. Cela se sent, selon lui, avec l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais les défis restent importants pour assurer une croissance inclusive et réductrice de la pauvreté. Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Des enfants dans des prisons pour adultes en Côte d'Ivoire. La Fondation Mireille Anty dénonce ce phénomène qui prend de l'ampleur sur l'ensemble du territoire ivoirien. Jointe à Abidjan, la présidente de cette ONG explique les raisons de cette mobilisation. On écoute Mireille Botti-Niaoré.
Le phénomène des enfants, comme vous l'avez dit, codétenus, mais que nous appelons enfants emprisonnés avec leur mère dans les prisons ivoiriennes, est un phénomène qui ne se limite pas à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, mais qui s'étend dans toutes les prisons ivoiriennes où il y a bien entendu des femmes, soit enceintes, soit qui entrent avec leurs enfants.
Il faut le dire à la décharge de ces enfants qu'ils ne sont coupables de rien. Pourquoi sont-ils en prison ?
Alors, les principales raisons, c'est que ces enfants, la famille n'en veut pas. La famille déjà stigmatise la personne qui est accusée d'un délit et qui part en prison. Puisqu'elle a un enfant à charge, on se dit, elle part en prison, elle jette le discrédit sur la famille. Donc, tant qu'à faire, qu'elle parte avec son enfant à la prison. Vous avez aussi la situation des mères qui entrent en prison en étant enceintes et donc qui accouchent dans le milieu carcéral en prison et l'enfant demeure avec elle tout le temps de sa détention. Nous, notre combat, c'est que la prison ne doit pas être une alternative à l'éducation ou au lien parental. Si la femme qui part en prison est rejetée par sa famille, pourquoi ne transférons pas ou ne referons pas, nous, les enfants, vers un orphelinat, vers une pouponnière, qui sont des structures étatiques? Pourquoi ne ferions-nous pas cela pour ces enfants-là dont les mères sont connues et qui purgent leur peine dans le milieu carcéral?
Alors, il faut sauver ces enfants. La Fondation Mireille Anty dit non. Qu'est-ce que vous faites pour les soulager?
Alors, ce que nous faisons pour les soulager, nous avons commencé déjà depuis la rentrée dernière. Nous avons scolarisé ceux qui étaient en état d'être scolarisés. Et cette année, on s'est dit, tiens, c'est un projet qui marche, il est possible de sortir ces enfants-là du milieu carcéral. Donc nous allons encore mobiliser des énergies, mener des actions de sensibilisation, ce que nous avons commencé déjà depuis la journée de l'enfant africain, où nous avons plaidé pour demander ne serait-ce que l'application de la Convention africaine des droits et du bien-être de l'enfant, qui demande que l'enfant ne soit pas incarcéré avec sa mère, une convention qui a été ratifiée par la Côte d'Ivoire, et puis demander que cette disposition qui demande que l'enfant soit en prison jusqu'à l'âge de 2 ans n'est pas lieu de citer, parce que tout simplement on est en train d'inculquer un univers carcéral comme étant un milieu propice à l'enfant. Il n'en prend pas conscience de 0 à 2 ans et même 3 ans. Et pour lui, le visage qui est derrière les barreaux, c'est celui-là qui est étranger, alors que c'est son univers en réalité.
Au micro de Jean-Roger Bion, c'était Mireille Niaouré-Botti, présidente de la Fondation Mireille Anty. Et elle était jointe à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Et on change de région en Afrique. Un projet de loi actuellement devant l'Assemblée au Tchad alimenterait l'homophobie et serait un pas en arrière au regard des droits humains, affirme Amnesty International, Chérubin.
L'ONG avertit, Nathalie, que les modifications du code pénal proposées par le gouvernement du président Idriss Déby Itno exposeraient les comportements homosexuels, écoutez bien, à des peines allant jusqu'à 20 ans de réclusion et des amendes pouvant atteindre 1000 euros. On écoute le chercheur Christian Moukosa, spécialiste de l'Afrique à Amnesty International.
Nous interpellons les autorités tchadiennes, donc le gouvernement, le Parlement, parce que le projet de loi qui a été soumis au Parlement nous paraît très vague, imprécise et dangereuse parce que des gens peuvent être arrêtés, détenus, ou on peut enquêter sur eux simplement parce qu'ils sont perçus être... d'orientation sexuelle différente, et donc ça, c'est pas acceptable.
Alors, le projet de loi tchadien survient quelques semaines après que les législateurs gambiens aient proposé de nouvelles peines sur l'homosexualité.
Nous sommes préoccupés par la tendance, l'intolérance grandissante sur les continents. Vous avez bien mentionné la Gambie, et peut-être que c'est pas la fin. Et ce qui est important, c'est que les autorités doivent essayer de respecter l'orientation des gens ou sexuelle des uns des autres et être plus tolérant possible et s'assurer que le respect des droits humains soit les mêmes partout et pour tous dans le pays. Encore, c'est très important pour nous de nous rassurer que ce genre de projet de loi ou de proposition de loi n'affecte pas justement la dignité humaine, mais également ne donne pas le flanc à des dérives.
C'était Christian Moukosa d'Amnesty International. Et pour une réaction au Tchad, Timothée Donangmaya joint N'Djamena Beyem Adrien Malo, secrétaire général du Mouvement populaire du Salut, le parti au pouvoir.
Parler de la criminalisation de l'homosexualité, ce n'est pas un mot adéquat. L'homosexualité est punie. Punie parce que c'est une déviance de la ligne logique de la marche de la nature. C'est une pratique qui sous-tend une dénégation même de la société. Parce que toute société est appelée à se poursuivre par la procréation. Or, que prône l'homosexualité? C'est une sorte d'extinction même de la race humaine. Je crois que c'est dans cette ligne qu'il faut interpréter cette punition de la déviance sexuelle. J'appelle ça la déviance parce que, naturellement, c'est l'hétérosexualité qui est la norme.
Les ONG de défense des droits humains disent que les modifications proposées sont très vagues et pourraient conduire à la poursuite de quelqu'un sur la base de simples dénonciations ou même de la rumeur. Qu'en dites-vous?
toute personne est d'abord présumée innocente. Ce n'est pas sur la base de fausses rumeurs ou bien des on dit qu'on peut poursuivre quelqu'un pour mettre sa pratique sexuelle. Je crois que la peur réside ailleurs. Ce n'est pas au nom de la liberté ou de la possibilité de disposer de son corps qu'il faut anéantir et bannir ce que la nature elle-même consacre. C'est parce qu'il y a les différences sexuelles, c'est parce qu'il y a l'homme et la femme que la procréation est possible.
Beyem Adrien Malo est le secrétaire général du MPS, le parti au pouvoir au Tchad.
Et nous passons tout de suite à l'actualité sportive, présentée ce soir par Timothée Dolangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Chérubin.
Football africain, la Guinée et la Sierra Leone joueront leur prochain match de qualification à la CAN 2015 à l'extérieur. La Confédération africaine de football ayant maintenu sa décision de ne pas organiser des rencontres dans ces deux pays, c'est à cause d'Ebola, n'est-ce pas?
Tout à fait Chérubin. Ainsi, c'est le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun que la Sierra Leone accueillera le 10 octobre le Cameroun dans le groupe D. Vous l'avez bien entendu, les Camerounais joueront donc à domicile leur match aller et retour contre les Sierra Leonais. La Guinée et le Ghana s'affronteront de leur côté le 11 octobre au complexe Mohamed V de Casablanca au Maroc.
En Europe, le tout nouveau coach du Portugal, Fernando Santos, n'a pas eu gain de cause après avoir interjeté appel de sa suspension pour 8 matchs lors de la dernière Coupe du Monde au Brésil.
Santos, qui avait mené l'équipe de Grèce au Mondial 2014, s'en était violemment pris aux officiels à la suite de l'élimination de ses poulains au second tour par le Costa Rica. La Grèce avait perdu au tir au but. La commission d'appel de la FIFA a confirmé la suspension de Santos pour 8 matchs. En dépit de cette sanction, la fédération portugaise a engagé Santos. Ce dernier peut saisir le tribunal arbitral du sport concernant sa punition.
Et des voix continuent de s'élever pour la publication du rapport sur l'attribution controversée, il faut le dire, des Coupes du Monde de 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar.
Michael Garcia, le directeur de la chambre d'investigation du comité d'éthique de la FIFA, a demandé aujourd'hui que le document de 430 pages produit par son équipe d'enquêteurs soit rendu public. L'ancien procureur américain a publié un communiqué dans ce sens à la veille de la réunion du comité exécutif de la FIFA prévue demain et vendredi à Zurich. Avant Michael Garcia, le prince Ali Ben Al-Hussein, un membre du comité exécutif de la FIFA, avait demandé la même chose.
Merci Timothée.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en direct dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington. Présent la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Nathalie, salut Gabi, l'artiste américain de musique country Tim McGraw n'est pas seulement chanteur, hein. Gabi ne savait pas ça, mais c'est une information pour Gabi, mais aussi acteur.
Ah bon?
Ah oui, voilà, tu viens d'apprendre, non?
Oui, bien sûr.
Ah, super, mais écoute, Tim est parmi, c'est pas Tim Dugnamari, mais Tim McGraw, est parmi les top chanteurs country des États-Unis. On l'écoute donc ce soir dans Keep on Trucking. So your top don't pop and your roll don't rock,
but the clock don't stop 'cause your feet don't feel the groove. Alors Roger, Tim McGraw, dites-moi si je me trompe, il est marié à la chanteuse Facile et son père.
Mais t'as gagné, voilà.
Ah, j'ai gagné. Son père, c'est l'ancien joueur de baseball, Tug McGraw.
Oui, exactement. C'est ça. Exactement.
Et parmi ses succès, on pourrait peut-être citer Welcome to the Club, entre autres.
Oui, oui, Nathalie, mais il y a aussi Indian Outlaw, Don't Take the Girl, I Like It, I Love It, Something Like That, It's Your Love, en duo d'ailleurs avec sa femme Facile. Hein. Tim est aussi le chanteur préféré, Nathalie, de Taylor Swift. Taylor Swift, c'est aussi la chanteuse préférée d'une amie qui vient toujours t'aider à ton desk, à ton bureau. Une amie à moi, une petite demoiselle qui vient toujours t'aider ici à la Voix d'Amérique.
Oui, elle l'adore. Elle l'adore.
Et celle absolument que j'appelle la pépette.
Mais voilà, tout le monde arrive. So your dog don't bark and your flame don't spark. Your broken heart, it just can't catch a break. So your flop don't flip, 'cause your heart don't hit. And no such a sip can't take the pain away, no. Put your arm out the window, let your hands start serving. Ain't no thing, everything ain't working. Throw a little love till the world stops.
Merci beaucoup, Roger, pour la musique country des États-Unis. Hein, ça fait partie de la culture américaine.
Bien sûr, comme,
hein,
la, comme je dis, la musique traditionnelle américaine.
Ouais, c'est la musique traditionnelle et on l'apprécie beaucoup ici. On espère que vous l'appréciez. On vous retrouve tout à l'heure, Roger. Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Donc, Lionel Gaïma était à la mise en onde. Avec vous, c'était Nathalie Barge et Chérubin Dorsil. Très bonne soirée avec Roger. Out the window, let your hands start surfing. Ain't no thing if a thing ain't working.